Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la puissance militaire, sujet au centre du dernier numéro de la revue Questions internationales de la documentation française. En quoi consiste aujourd'hui la puissance militaire? Qu'est-ce qui la différencie de celle d'hier? Quels en sont les instruments, les méthodes, les dynamiques, les équilibres? Première question parmi toutes, celle de la fonction même de la puissance militaire. Est-elle la guerre? Ou à l'inverse, de la prévenir. Puissance militaire, facteur de paix par l'équilibre, par la dissuasion. Regard sur les nouveaux équilibres de la puissance militaire au XXIe siècle et les bouleversements des hiérarchies, conséquences de la montée en puissance de la Chine qui rarement s'est montrée aussi sûre d'elle-même, de la démilitarisation de la majorité des États européens et du repli américain, tandis que certains pays n'hésitent pas à recourir à la force militaire pour parvenir à leurs objectifs de puissance. La volonté politique plus forte que le simple volume des dépenses militaires, la question est posée. Les évolutions technologiques sont en tout cas porteuses de profonds changements tactiques et stratégiques, donnant une importance inégalée à l'arme aérienne, ou plus exactement à la puissance aérospatiale, et ce alors que les conflits asymétriques constituent la norme depuis plusieurs dizaines d'années, qui nécessitent des méthodes et des moyens particuliers. Nous le verrons. Nos invités, Serge Sure, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas, directeur du Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales, rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Bonjour.
Bonjour.
Le général Laurent Labat est consultant pour des sociétés aéronautiques européennes et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Bonjour.
Bonjour.
Et le colonel Michel Goya par téléphone, consultant en stratégie et professeur associé à Sciences Po et à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
Quelques chiffres pour commencer, de façon à poser les choses et avec des images, si tant est que les chiffres puissent en donner. En tout cas, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, pour la période 2001-2013, les dépenses militaires ont augmenté de 49% dans le monde, mais de 277% en Chine, de 152% en Russie, de 14% en Arabie Saoudite, de 72% en Inde, de 99% en Asie orientale et de 114% en Afrique et 59% au Moyen-Orient. Ça fait beaucoup de chiffres, mais bon, et je continue. Les États-Unis, avec 640 milliards de dollars en 2013, conservent le plus gros budget devant la Chine, 188 milliards, la Russie, 87 milliards. Et les États-Unis ne représentent plus que 37% des dépenses militaires mondiales contre plus de 50% il y a quelques années. Michel Goya, je me tourne vers vous. Un commentaire sur tous ces chiffres et les évolutions qu'ils reflètent.
Vous n'avez pas cité le cas de l'Europe dans ces chiffres. C'est-à-dire que là, on a aussi une situation d'une zone, la seule dans le monde, qui, elle, diminue son effort de défense. Si la France actuellement faisait le même effort en termes de pourcentage du produit intérieur brut consacré à la défense, notre budget ne serait pas de 31 milliards d'euros, mais de 65 milliards. Et nous ne sommes pas un cas particulier en Europe. C'est-à-dire qu'on a une situation dans le monde où, après une décrue des dépenses militaires, après la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS, on a depuis quelques années effectivement une recroissance, un renouveau des dépenses militaires avec des cas particuliers que vous avez évoqués, les États-Unis qui a un énorme développement après 2001, après les attentats du 11 septembre, qui constitue encore presque 40% des dépenses mondiales, ce qui est énorme, ce qui est encore une fois c'est inédit dans l'histoire. Et puis vous avez effectivement des puissances qui se développent très vite, la Chine, la Russie, qui doublent leur budget de défense tous les 5 ou 6 ans, et puis d'autres puissances émergentes qui apparaissent. Et donc la tendance générale, c'est quand même un décrochage aussi de l'Europe et notamment de la France dans cet univers qui, lui, s'arme.
Alors c'est vrai qu'en introduction, je n'abordais que les pays en augmentation. Effectivement, la liste des 10 pays qui dépensent le plus pour leur défense ne compte plus que 3 pays européens, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Je parle évidemment sous votre contrôle aux uns et aux autres, désormais tous derrière l'Arabie Saoudite. Serge Sure, un commentaire.
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas surestimer les indicateurs statistiques. Ils sont très utiles, mais on pourrait dire qu'ils ne sont qu'un élément parmi d'autres pour juger d'une puissance militaire, parce que celle-ci repose sur des éléments qualitatifs qui ne sont pas moins importants. J'ajoute que certains pays jouent un rôle international extrêmement important, sans avoir de véritable puissance militaire, comme l'Allemagne ou le Japon. Et donc, le tableau est très contrasté. Pour ce qui est de l'Europe, là encore, nous avons beaucoup de contrastes, puisque précisément l'Allemagne, qui est au cœur de l'Europe, ne fournit qu'un effort militaire relativement faible par rapport à la France, qui non seulement fournit un effort militaire sur le plan financier, mais est engagée sur plusieurs théâtres d'opérations. Et engagée, on peut dire pour l'instant, plutôt avec succès. Alors évidemment, on pourrait nuancer l'approche, mais enfin, pour l'instant, on peut dire que les opérations militaires extérieures que livre la France sont plutôt réussies. Donc, je crois qu'il ne faut pas céder au pessimisme ou à l'alarmisme. L'Europe tient encore son rôle. Et j'ajoute que, dans le cadre de la construction européenne, elle est structurellement vouée à la paix. Ce qui veut dire qu'elle a une autre approche des relations internationales qu'une approche purement stratégique, où sa stratégie n'est pas une stratégie militaire. Donc il faut tenir compte de tous ces éléments pour peser un petit peu le rôle des uns et des autres.
Laurent Labaye ?
On peut être tout à fait impressionné par ces chiffres Chine, Russie, Arabie Saoudite, Inde, Asie, avec une constante, bien sûr, de l'hyperpuissance américaine. Et je suis bien sûr d'accord avec Michel Goya, quand on parle de l'Union européenne, parce que c'est elle qui compte, ou de l'Europe, qu'on assiste clairement à un désarmement structurel. Je vais être un petit peu plus sévère que Serge Sûr. Et on en connaît l'origine, la chute du mur de Berlin, la parole malheureuse d'un de nos diplomates en chef aujourd'hui, et qu'il fallait en tirer les dividendes de la paix. Et donc on a assisté à cette dégringolade des budgets de défense, quand on pense qu'aujourd'hui, effectivement, on devrait être à 65 milliards d'euros, comme l'a dit Michel Goya. C'est un constat, certes. Toutefois, je voudrais aussi le tempérer sur un point qui est l'efficacité militaire. Les budgets, c'est une chose, le savoir-faire, c'en est une autre. Et il faut quand même considérer que le différentiel de savoir-faire technologique entre les pays occidentaux et les pays émergents est quand même suffisamment important à ce jour pour induire, disons, une capacité qui est encore tout à fait appréciable dans nos pays occidentaux, ce savoir-faire industriel, d'abord, pour les progrès technologiques, la conception de tous nos systèmes d'armes, et puis aussi un savoir-faire militaire, parce que l'art de la guerre, c'est une chose, et donc il faut reconnaître que l'emploi par les Américains et les puissances occidentales est aujourd'hui à un point de déficience qui n'est pas du tout négligeable. Donc pour moi, c'est effectivement, d'un côté, c'est cette inquiétude sur les budgets dont il faut se ressaisir, et parallèlement, un savoir-faire indubitable, industriel et militaire.
Alors, pour aller plus loin sur la question du savoir-faire, je me tourne vers vous, Michel Goya. Finalement, qu'est-ce qu'être une puissance militaire aujourd'hui ?
Ah, c'est une question assez complexe, car la puissance militaire, c'est la capacité à user de la force pour atteindre des objectifs politiques. Le problème, c'est que cet usage de la force se fait par définition contre quelqu'un, et que cette notion de puissance militaire est en réalité très relative. Bon, on l'a évoqué, les chiffres bruts, c'est une chose, le potentiel, c'est une chose. Les États-Unis, depuis 1945, ont le premier budget de défense au monde. Ça ne les a pas empêchés de perdre quasiment toute leur guerre, sauf la première guerre du Golfe, depuis cette époque. Donc la puissance militaire, c'est une chose, mais le plus important, c'est comment on s'en sert, pour quels objectifs politiques, et face à qui. Là, nos outils de défense, ils ont une certaine forme, ils ont été fondamentalement taillés principalement pour un affrontement interétatique. Là, je pense à l'Europe, à un affrontement en Europe contre le pacte de Varsovie, par exemple. Ces mêmes instruments militaires n'ont pas été extraordinairement efficaces face à des organisations non étatiques. Quand on regarde toutes les organisations armées du Grand Moyen-Orient, depuis l'Hezbollah, jusqu'au réseau Akani, jusqu'au Taliban, en passant par l'armée du Mali en Irak, aucune de ces organisations n'a été vaincue par les États-Unis, par leurs alliés, les différentes coalitions, ou par Israël, qu'on a vraiment été vaincu militairement. Or, ces organisations, si on reprend la question du budget, elles ont un budget qui est absolument dérisoire par rapport à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tout ça est très relatif. La question qu'il faut se poser, c'est à chaque fois, c'est qui, avec cette force, sommes-nous capables de vaincre ? de vaincre, c'est-à-dire à qui pouvons-nous imposer notre volonté. Et là, les choses sont beaucoup plus complexes.
Alors, moi, ce que j'entends, et je vais vous demander de réagir, Serge Sur et Laurent Labaye, à ce que vient de dire Michel Goya, c'est que finalement, avec les montants astronomiques en termes de budget militaire qu'on évoquait en introduction, la question qui se pose aujourd'hui, elle est de savoir si les outils militaires sont adaptés aux configurations qui sont celles que le monde connaît aujourd'hui. Et évidemment, et c'est un sujet que Michel Goya connaît bien, c'est la question de la guerre asymétrique, Serge Sur.
Oui, alors plus largement, l'usage de la force n'est qu'un des éléments de la puissance militaire. À vrai dire, elle est surtout utile si on ne s'en sert pas. C'est-à-dire si elle remplit son rôle de dissuasion. Et le colonel Goya soulignait très justement que les États-Unis, en dépit de leur puissance surabondante, n'ont pas gagné leur guerre récente. Et donc l'importance des budgets militaires est tout à fait relative par rapport à le bon usage de l'outil militaire. Et de ce point de vue, la dissuasion est évidemment la meilleure formule. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je voudrais prendre un exemple qui est celui de la mer de Chine. On voit bien que la puissance américaine se heurte à la montée en puissance de la Chine dans cet espace. Et on voit bien qu'on est dans un stade où la Chine avance doucement, mais avec beaucoup de constance, et que les États-Unis cherchent à empêcher cette situation. Je crois que s'il n'y avait pas la puissance militaire américaine, notamment la puissance navale et aéronavale, la conquête de la mer de Chine du Sud par la Chine continentale serait beaucoup plus rapide. Et donc là, on a, sur le terrain, si je puis dire, un exemple de l'usage non militaire de la force militaire. En tout cas, non violent de la force militaire. Et puis, à côté de cela, il y a effectivement les guerres asymétriques qui soulignent les limites. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons parlé, dans le dossier de questions internationales, nous avons parlé d'une puissance incertaine. Parce qu'elle est très largement spéculative, dans la mesure où elle joue un rôle dissuasif. Eh bien, si les acteurs sont rationnels, ils ne s'engagent pas là où ils savent qu'ils perdront en cas de confrontation. Mais, voilà, la confrontation est toujours un saut dans l'inconnu. Et c'est pourquoi je crois que la force militaire ou la puissance militaire est un outil politique qui doit être utilisé un petit peu dans le cadre du smart power. Mais qu'il faut éviter d'en faire, suivant la formule du général de Gaulle, un usage expéditif et limité. Et ce qui a été parfois la tendance des États-Unis, et ce qui reste un peu la tendance des États-Unis, qui ont fortement militarisé leur politique étrangère. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer, et on voit par exemple que M. Kerry s'efforce de développer une diplomatie, même si c'est une diplomatie parfois un peu coercitive. Mais il n'y a pas de bon usage de la force militaire et de la puissance militaire s'il n'y a pas une diplomatie qui soit l'accompagnement, qui soit le soutien de cette puissance.
Monsieur Kerry qui continue de travailler malgré son accident de bicyclette et son hospitalisation. Laurent Labaye a un commentaire sur...
Oui, alors effectivement, je pense que qu'est-ce qu'une puissance militaire aujourd'hui? Et puis, est-ce que cet outil est toujours adapté aux configurations que l'on rencontre sur le terrain? Je voudrais, moi aussi, peut-être insister sur le fait que cet outil militaire... en fait, est indissociable du volet diplomatique, du volet politique que suivent les États, puisqu'on est bien là dans une problématique d'État. Et je voudrais me référer à l'ONU, à l'existence de l'ONU qui n'a pas de force en propre et qui donc se repose sur les États qui le composent pour que, lorsqu'une résolution est votée, on puisse la faire appliquer. Alors, selon des coalitions, bien sûr, tout à fait de dimensionnement variable, sous l'égide de l'OTAN, sous l'égide de l'Union européenne éventuellement, comme on l'a vu en Afrique, ou selon des coalitions ad hoc. Donc, pour moi, c'est indissociable à la fois de ce volet du droit international, donc se reposant sur l'ONU, sa charte, ses résolutions. Et que donc, chaque pays se doit d'avoir un outil militaire pour contribuer à la mise en œuvre de cette politique de l'ONU, parce que c'est une telle avancée du XXe siècle que l'ignorer ou la minimiser serait pour moi un péché contre l'esprit. Ça, c'est un premier point. C'est donc l'outil militaire est avant tout un outil au service de la diplomatie et de la politique. Après, sur votre deuxième question, est-il toujours adapté aux configurations que l'on rencontre dans les conflits modernes, les crises, et notamment des guerres asymétriques? Alors là, je pense qu'il faut absolument se positionner dans un contexte global. C'est-à-dire que, une fois de plus, utiliser l'outil militaire sans des buts de guerre précis, d'une part, avant de s'engager, et ensuite, lorsque l'action militaire, disons, a atteint certains objectifs, minimiser ou ne pas utiliser de façon efficace la diplomatie et des résolutions politiques, c'est là où effectivement on se trouve parfois dans des impasses ou des enlisements. Je voudrais tout simplement prendre trois exemples tirés de l'actualité d'aujourd'hui. Le premier, c'est l'opération Barkhane qui a suivi celle de Serval au Sahel. Si on se remémore ce passé très récent, on constate que une fois que le verrou a été ôté et que les forces françaises notamment ont pu s'engager au Mali, on constate qu'il y a eu un succès militaire de cet outil militaire vis-à-vis de forces que l'on peut juger quand même totalement asymétriques puisqu'il ne s'agit pas de forces étatiques. Or, qu'a-t-on constaté à une certaine phase? C'est un renouveau des actions de ces terroristes dans le nord du pays. Et en fait, l'explication est simple, c'est que il devait y avoir une transition entre cette action militaire et la mise au pas par le pouvoir politique malien, qui, on peut le regretter, n'a pas su faire le ménage ou n'a pas forcément eu la bonne politique vis-à-vis de lutte intestine des populations du Nord, que l'on connaît, Touareg, etc. Donc voilà un exemple clair où un outil a répondu à un but de guerre. Il fallait stopper une offensive de ces bandes armées. Mais ensuite, il faut tout de suite déboucher sur une solution politique. Et là, malheureusement, ça n'a pas été catastrophique. On reprend le dessus. Mais voilà un bon exemple. Un deuxième exemple.
Rapidement, Laurent Labaye, pardonnez-moi, mais pour ensuite pouvoir équilibrer les prises de parole et peut-être laisser...
J'y reviendrai plus tard, si vous voulez bien, parce que je pense que parler de l'Irak-Syrie est un sujet en tant que tel. Donc je ne vais pas le traiter trop rapidement, et je pense que effectivement l'avis de mes camarades sera très intéressant.
Serge Sûr.
Oui, d'ailleurs, je voudrais simplement prolonger ce que vient de dire le général là-bas. Il a tout à fait raison de partir de la charte, parce que la charte, elle crée un ordre juridique nouveau, si je puis dire. Et dans cet ordre juridique, il y a qu'en principe, on ne recourt pas à la guerre. Il y a le fait que l'usage de la force armée est étroitement réglementé et étroitement limité sur le plan international. Et le paradoxe, c'est que malgré tout, on maintient les armées nationales. Assez logiquement, si on interdisait complètement le recours à la force, on devrait supprimer les armées. Or, on les maintient. Alors, le général Labaye a raison de dire que c'est en partie pour servir aux actions des Nations Unies, mais c'est aussi pour défendre le territoire. Puisque un des principes de la charte, c'est la lutte contre l'agression et la légitime défense. Donc, tout État est fondé à maintenir son armée et il n'y a pas de limitation à son armement dans la charte. Ça sert à défendre le territoire, mais aussi ça sert aux actions des Nations Unies. C'est censé aider aux actions des Nations Unies. Avant, l'outil militaire, il servait à défendre le territoire et au besoin à l'étendre. Aujourd'hui, en principe, il ne doit plus servir à l'étendre, mais il sert toujours à le défendre. Et il y a, une double évolution de ce point de vue, parce que les menaces à la sécurité sont très loin aujourd'hui d'être simplement des menaces militaires. Elles ne sont même pas essentiellement des menaces militaires, c'est surtout des menaces non militaires. Et donc, lorsqu'on raisonne en termes de défense ou en termes de sécurité, on doit aussi raisonner en termes non militaires, où là, la puissance militaire se trouve un petit peu déphasée. Et en même temps, elle va servir à autre chose qu'à défendre le territoire, puisqu'elle sert à des missions internationales, elle sert au maintien d'un certain ordre international, que ce soit dans des opérations extérieures menées par un État ou par une coalition d'États, ou que ce soit dans le cadre du service des Nations Unies, lorsqu'on agit au nom ou sous mandat ou avec l'autorisation des Nations Unies. Et là, c'est un peu le paradoxe de la charte, que d'un côté de chercher à écarter la guerre, tout en maintenant la puissance militaire. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut soigneusement différencier la puissance militaire comme outil politique et comme instrument de guerre. Et lorsque la guerre commence, la politique tente à s'abolir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la formule de Clausewitz sur laquelle la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Je crois que c'est une rupture fondamentale. Et que ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes desseins, ce ne sont pas les mêmes méthodes. On change d'univers. Maintenant, il est très important, et je terminerai là-dessus, qu'il y ait une cohérence entre la diplomatie et la défense. Et ça, c'est un des apports, en quelque sorte, de la Ve République en France, que d'avoir souligné cet apport et les liens très étroits qui doivent toujours exister entre la diplomatie et la défense. Si nous avons perdu la guerre de 1940, c'est parce qu'il y avait justement une incohérence, une rupture complète entre une politique militaire purement défensive et une politique diplomatique qui consistait à avoir des alliances de revers. Et ce qu'avait dénoncé le général de Gaulle a abouti à ce qu'on sait. Donc la Ve République est fondée sur la cohérence entre la diplomatie et la défense.
Alors nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission Géopolitique. Nous retrouvons nos invités Serge Sûr, Laurent Labaye et Michel Goya dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la puissance militaire, sujet au centre du dernier numéro de la revue Questions internationales de la documentation française. Nous retrouvons nos invités. Serge Sur, professeur émérite à l'université Panthéon-Assas, directeur du centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales et rédacteur en chef de la revue Questions internationales. Le général Laurent Labaye, consultant pour des sociétés aéronautiques européennes et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et le colonel Michel Goya, consultant en stratégie et professeur associé à Sciences Po et à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Michel Goya, Serge Sur évoquait à la fin de la première partie de l'émission cette nécessité d'avoir une cohérence entre la diplomatie et la défense. J'ai cette question, est-ce qu'on n'a pas tendance à recourir à l'outil militaire de façon trop facile et systématique dans la gestion des crises?
Ça dépend. Le fait est qu'en France, notamment, les institutions sont telles qu'elles permettent d'engager la force armée relativement facilement. C'est-à-dire que contrairement aux États-Unis, par exemple, pour faire la guerre, c'est-à-dire pour engager des troupes au sol, il faut un vote du Congrès. Donc c'est un processus qui est assez lourd, qui a ses effets négatifs que l'on connaît bien. En France, en réalité, sous la Ve République, le président de la République, le chef des armées, décide de l'emploi de la force de manière assez simple. Et donc, il y a toujours la tentation d'utiliser cet outil extrêmement pratique, finalement, enfin, cette pratique puissant, qui peut être déployé très vite pour certains objectifs. Bon, pour parler très concrètement, je vais donner un exemple. J'étais engagé au Rwanda en 1992 dans l'opération de Norwa avec l'armée rwandaise pour combattre le front patriotique rwandais. Bon, je crois qu'il n'y avait pas une journée où je me demandais quand même quels intérêts la France défendait dans ce pays. Bon. Pour revenir plus largement, la force militaire, la force d'une manière générale, c'est un instrument politique, parmi d'autres, qui doit être normalement au service d'une stratégie, qui doit être là aussi, si possible, à peu près claire. C'est sans doute là que se situent souvent les problèmes. Je voudrais juste insister sur un point, c'est que cette force légitime, finalement, il n'y a que deux emplois possibles. Il y a la guerre ou la confrontation, c'est-à-dire une guerre un peu non-violente qu'évoquait Serge Sur, c'est-à-dire la confrontation face à un ennemi, c'est-à-dire face à une autre entité politique à qui on essaie d'imposer sa volonté. Et puis le deuxième emploi possible de la force, c'est la police, c'est-à-dire qu'on rétablit ou on maintient un certain ordre quelque part. Et il est extrêmement dangereux de confondre les deux emplois. Quand les forces françaises sont engagées en Centrafrique, l'opération Sangaris, c'est une opération de police. On sécurise une zone, il n'y a pas d'ennemis désignés, donc il n'y a pas de confrontation politique, et on essaie de rétablir à peu près la sécurité dans le pays. Le problème de cette mission de police, c'est que, en réalité, c'est une mission un peu sans fin. C'est-à-dire que le rôle des policiers, c'est de déceler et de neutraliser ceux qui contreviennent à la loi. Et ça, c'est une mission permanente. Et quand on confond les deux, c'est-à-dire quand on engage la force armée face à quelqu'un à qui on nie le caractère politique, et typiquement c'est souvent le cas des Américains, qui s'engagent dans la destruction de l'adversaire, dans l'élimination de cet adversaire qui est présenté comme le mal, comme quelqu'un avec qui on peut en aucun cas discuter, on se lance dans des guerres sans fin en réalité, et on le voit bien encore aujourd'hui, c'est-à-dire que on cherche simplement à éliminer les combattants ennemis comme on élimine des délinquants. Et c'est cette confusion, encore une fois, c'est plutôt typiquement un phénomène américain, mais comme les Américains pèsent d'un poids considérable dans les affaires militaires et nous entraînent souvent, parfois, en tout cas avec eux, cela nous engage dans des processus qui sont des processus en réalité sans fin et d'un usage qui, pour le coup, me paraît dévoyé de la force militaire.
Serge Sur, Laurent Labaye, un commentaire sur ce que vient de dire Michel Goya?
Oui, juste un mot pour dire qu'en effet, ces missions de police internationale sont des missions sans fin, puisqu'après tout, la police, c'est une mission permanente, et c'est une mission d'État. Lorsque on demande à une armée étrangère de l'assumer, ça veut dire qu'on est en présence d'un État défaillant. Et le problème des États défaillants est un problème de la conflictualité contemporaine. Normalement, on devrait chercher à reconstruire les États, mais on constate que c'est une tâche extrêmement difficile et qui ne peut pas être simplement une tâche militaire.
Laurent Labaye.
Oui, juste sur un point de principe. On a parlé tout à l'heure du vote du Congrès américain. En France, le chef de l'État et chef des armées, il décide l'emploi de la force. Je rappelle quand même qu'il y a une disposition existe depuis quelques années avec un contrôle du Parlement qui vote au bout de quelques semaines sur la légitimité de cet engagement et sur sa poursuite. Bon, on constate que jusqu'à présent, la réponse a toujours été oui. Sur le recours peut-être un peu trop rapide à l'engagement, je voudrais rappeler aussi qu'on a un contre-exemple avec la question du bombardement en Syrie qui avait été envisagé par la coalition, les Américains, Français, Britanniques.
En août 2013, en août avec 2013, le franchissement de la ligne rouge par Bachar al-Assad.
Oui, du fait de bombardements présumés chimiques, et que cette opération militaire n'a pas eu lieu, et qu'il y a eu une décision de ne pas y aller.
Alors, moi, ce qui j'ai particulièrement été intéressée par ce qu'évoquait Michel Goya quant à l'élimination de l'adversaire, cette conception américaine de la guerre, qui est finalement ce que vous développiez, hein, Michel Goya, assez atypique et qui permet sans doute de comprendre la situation actuelle. C'est une notion qui, pour vous, est dépassée.
C'est pas qu'elle soit dépassée, c'est qu'elle entraîne des effets pervers. L'armée américaine, dans le credo du soldat de l'US Army, dans son article 11, il y a « je me préparerai à détruire les ennemis des États-Unis ». Vous avez toutes les armées ou un code d'honneur. C'est la seule où il est question de la destruction de l'ennemi et non pas de la victoire sur l'ennemi. C'est-à-dire que dans la culture stratégique américaine, il y a toujours cette idée que on réunit une armée, on réunit des forces, on va détruire la menace, il y a une menace existentielle, on va la détruire, comme l'Allemagne nazie, et on rentre à la maison. Ça, c'est quand même un peu dans l'ADN de la conception stratégique américaine. Or, ça peut avoir un certain effet dans un conflit interétatique, à la limite, pourquoi pas. Dans des conflits contre des organisations non étatiques, c'est beaucoup plus compliqué. Cette destruction est quasiment impossible. C'est quelque chose qui est extraordinairement long. Bon, on parlait très concrètement, éliminer des leaders, éliminer des hommes par drone, par raid de forces spéciales face à des organisations qui ont une implantation populaire, c'est comme tondre le gazon. D'ailleurs, c'est une expression qui est utilisée par certains militaires. Mais voilà, donc on tond le gazon régulièrement, mais le gazon est toujours là, quoi. Donc c'est pas un moyen d'obtenir la paix, quoi. Le but de la guerre, c'est quand même fondamentalement d'obtenir une meilleure paix, comme disait Liddellart.
Laurent Labaye, je vous laisse revenir sur la question syrienne que vous vouliez évoquer tout à l'heure, peut-être en complément de ce que vient de dire Michel Goya et la conception qui est actuellement celle des États-Unis dans la lutte contre l'État islamique, et pas seulement en Syrie, mais également en Irak.
Merci d'évoquer ce sujet, parce qu'il touche à la notion de guerre asymétrique, mais il touche aussi au sujet précédent sur que faire de l'outil militaire dans un État qui a au départ une diplomatie, une politique et qui, à l'occasion d'un conflit, se fixe des buts de guerre. Est-ce que ces buts de guerre sont bien définis aujourd'hui pour les opérations menées en Irak et en Syrie ? Et c'est là où, effectivement, la place de l'outil militaire est tout à fait singulière. Il est capable d'obtenir des succès, mais pas forcément de façon attendue par l'opinion publique, lorsque la situation est aussi complexe. Pourquoi ? La situation est complexe, apparemment, à mon sens, dans ce pays, c'est qu'il a été pris comme principe par la coalition menée par les États-Unis, qu'on interviendrait avec des frappes aériennes, d'une part, et que d'autre part, on aiderait à se reconstituer les forces au sol irakiennes, en leur donnant des conseillers et en essayant de les faire se battre. Parce qu'effectivement, dans ce conflit, on constate bien que l'outil aérien seul n'est pas suffisant et qu'il faut donc des forces au sol. Le problème est un problème de nature politique de façon évidente. On est en Irak, dans un pays où les forces militaires sont constituées à la fois de chiites et de sunnites. On arrive à cette difficulté, qui ont un petit problème de reconnaissance vis-à-vis de la population, parce que la population, qui est quand même dans ces contrées à majorité sunnite, voit un État irakien d'émanation chiite. Donc il y a déjà la difficulté pour cette armée à être reconnue par ses propres populations. Les forces régulières ne sont pas reconnus, d'une part. D'autre part, il y a une démotivation assez forte de ces forces militaires régulières, l'armée et la police, du fait qu'ils n'ont pas d'accroche avec la population. Vous ajoutez dans la population un climat de terreur qui est entretenu par Daesh. Ceci fait que l'efficacité des troupes au sol est tout à fait mauvaise. Et on vient de le voir avec la prise de villes très importantes par l'État islamique. Ça, c'est pour ce qui est des forces au sol. Ensuite, au plan politique, l'incapacité du gouvernement irakien à avoir une réaction unifiée contre Daesh, puisqu'il y a différentes factions qui sont chiites et sunnites. Et ce gouvernement n'est pas capable d'avoir l'adhésion des populations. Donc si vous voulez, on est dans un système qui est complètement biaisé. On peut d'une part avoir une action aérienne qui peut être efficace, et on le démontre tous les jours. En revanche, on ne peut pas suivre au sol avec une action des forces terrestres, parce qu'elle n'est pas du bon niveau, et c'est là aussi prouvé tous les jours. J'ajoute qu'on a aussi une autre difficulté, nous Français, c'est qu'on intervient en Irak, mais pas en Syrie. Or, l'État islamique, il est dans les deux pays. Donc, j'avoue que c'est un peu ambigu, même si, par ailleurs, les États-Unis et certains pays du Golfe tapent en Syrie, la France et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas le faire. C'est une difficulté supplémentaire.
Michel Goya, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Laurent Labaye ?
On pourrait préciser, effectivement, revenir sur le cas français, c'est-à-dire que le Premier ministre, en janvier, après les attentats de janvier, a déclaré solennellement que nous étions en guerre contre le djihadisme. Bon, dans cette guerre contre le djihadisme, que faisons-nous ? Quel est l'emploi de la force armée ? Mais en réalité, nous avons accumulé des opérations qui sont autant des opérations de réaction. Donc on a parlé de l'opération Barkhane, c'est première opération dans le Sahel contre ces organisations djihadistes. On s'est engagé en Irak, c'est l'opération Shamal, donc participation à la campagne aérienne et à la formation des troupes irakiennes au sol. Et puis maintenant, c'est l'opération Sentinelle où on engage 7000 hommes en permanence sur les territoires métropolitains. Au total, d'ailleurs, vous constaterez que ça correspond, le total de tous ces moyens qui sont, les moyens qui sont engagés dans ces trois opérations, ça correspond à ce qui est prévu dans le livre blanc de la sécurité et de la défense de 2013 comme un engagement majeur, comme un conflit majeur. C'est-à-dire que là, nous sommes engagés militairement dans un conflit majeur. Mais la question qui se pose, et ça revient à ce qu'on a dit précédemment, pourquoi faire ? Quelle est la stratégie ? Quel est le plan vers la victoire ? Comment on va imposer notre volonté à l'adversaire ou éventuellement le réduire ou le détruire ? Ça, on ne le voit pas très bien. Et ça revient aussi à ce qu'on disait sur la facilité de l'emploi de la force armée. On emploie un peu les forces armées aussi en réaction. On montre que l'on fait quelque chose. Mais voilà, c'est plus, d'une certaine façon, l'emploi de la force armée comme anxiolytique pour réduire le stress, un petit peu la peur de la population, montrant qu'on fait quelque chose. On est les seuls à avoir engagé les forces armées sur le territoire métropolitain, dans les rues, après attaques terroristes, parmi les pays occidentaux, faut quand même le souligner. Donc là, on a effectivement cet emploi de la force un peu en réaction. Il faut être de la coalition contre Daesh, même si dans les faits, notre apport est quand même tout à fait minime. Et il faut montrer des soldats sur le territoire métropolitain, mais tout ça ne fait pas une stratégie, et au contraire, on assiste plutôt à une dispersion de nos forces, déjà réduites.
Alors, le temps passe et ce que j'aimerais, c'est qu'on passe un peu de temps, et je me tourne vers vous, Serge Sûr, sur les évolutions technologiques et l'impact des évolutions technologiques sur les questions de puissance militaire. Évidemment, elles donnent une accessibilité élargie, d'une certaine manière, à la puissance. Est-ce qu'on peut parler de démocratisation de la puissance ?
Puisque vous parlez de la technologie, c'est aussi bien civil que militaire. Alors, ça me donne l'occasion peut-être de revenir sur le thème que moi j'ai cherché plutôt à aborder, qui était celui des rapports entre civil, militaire, politique, militaire. Et je voudrais dire d'abord un mot sur cette notion de victoire. Cette notion de victoire, c'est une notion civile, la victoire. C'est une notion politique, c'est pas une notion militaire. Napoléon a gagné beaucoup de bataille, mais il n'a jamais gagné la paix. Et en définitive, il n'a jamais été victorieux. Parce que la victoire, c'est une notion politique et qu'il n'a pas réussi à l'obtenir. On pourrait dire la même chose en 1918. Sur le plan militaire, les Alliés avaient plutôt gagné, mais ils n'ont pas su organiser une paix durable, donc ils n'ont pas véritablement eu de victoire. En revanche, il peut y avoir des victoires qui ne sont pas militaires. Par exemple, la chute de l'URSS était indiscutablement une victoire des pays occidentaux, mais elle s'est faite sans confrontation militaire. Donc vous voyez, distinguons bien ce qui est civil, politique, ce qui est militaire, et la notion de victoire n'est pas nécessairement liée à la guerre. Maintenant, sur les questions technologiques, alors il est vrai que ça a toujours été une dimension de la compétition militaire, et si on prend l'histoire du XXe siècle, on mesure quelles sont les retombées civiles de la recherche-développement militaire. On sait par exemple que Internet dérive initialement d'un projet du Pentagone, et puis il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. Maintenant, la technologie, comme tout ce qui est le fruit de la recherche, a pour effet de créer une nouvelle hiérarchie. Alors c'est aussi vrai sur le plan civile, économique, que sur le plan militaire, on peut dire que ceux qui ont une avancée technologique ont un élément de supériorité par rapport aux autres, et ça a toujours été ainsi. Par exemple, le feu grégeois était un élément de la supériorité de l'Empire romain d'Orient, ce qui ne l'a pas empêché d'ailleurs, au bout du compte, d'être détruit. Parce que, après la recherche, vient la diffusion des produits, et par exemple les drones peuvent être une innovation, mais dans 10 ans, dans 15 ans, effectivement, il y aura une démocratisation des drones. Et donc, la recherche, il faut la maintenir en permanence, avec ce double objet, un double objet civil et militaire. On sait par exemple que toute la recherche spatiale a été très longtemps entretenue par le secteur militaire, et qu'elle a aujourd'hui beaucoup contribué à la supériorité américaine dans l'espace. Mais dans l'espace, aujourd'hui, c'est peut-être la recherche civile qui est la plus importante, et les utilisations civiles qui tendent à prendre le pas sur les utilisations militaires, en tout cas ordinaires, en tout cas quotidiennes. Alors, vous voyez, on est dans un domaine où la technologie devient un élément de la course aux armements, de la course qualitative aux armements, et il est pratiquement impossible de la réglementer. On peut, ça me permet de conclure peut-être avec la maîtrise des armements, qui a été un élément d'encadrement de la dissuasion nucléaire pendant quelques décennies. Alors, on pouvait toujours contrôler les aspects purement quantitatifs, le nombre de missiles, le nombre de têtes nucléaires, certaines utilisations des armes, mais la dimension qualitative, précisément les percées technologiques, il était évident qu'on ne pouvait pas les empêcher, et à la limite, c'est par une percée technologique que l'URSS a été vaincue, c'est par l'IDS, c'est-à-dire le programme, l'idée de déployer des armes spatiales, et donc de sanctuariser le territoire américain et de rendre vulnérable l'URSS.
En tout cas, la question du cyberespace, Laurent Labaye, je me tourne vers vous, c'est tout de même un domaine, un espace qui permet aux challengers des puissances établies d'avoir un potentiel certain.
Oui, le cyberespace, c'est effectivement un sujet extrêmement vaste. N'oublions pas que toutes les avancées technologiques qu'on a pu évoquer jusqu'à présent sont totalement décuplées par l'utilisation de l'espace, les moyens spatiaux, ne serait-ce que pour les communications, mais aussi pour le ciblage et donc la préparation des attaques de toute nature. Donc ceci, bien sûr, suppose un niveau technologique extrêmement élevé, dont ne dispose pas la plupart des pays contre lesquels nous pourrions être engagés à ce stade. Donc, effectivement, le cyberespace, c'est quelque chose qui est absolument indispensable aujourd'hui, que ne maîtrise que peu de pays, et qui est franchement la clé des succès futurs.
Et où la capacité de nuisance peut être très forte, Michel Goya, pour conclure.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi un outil qui se démocratise. On a vu des attaques récentes d'organisations djihadistes sur ce champ-là. Juste un point sur la technologie, c'est encore une fois, c'est comme les chiffres, c'est comme les budgets, tout dépend de la volonté politique qui se trouve derrière et de l'emploi que l'on en fait. Je rappellerai juste que l'État islamique que l'on a évoqué, sa technologie, c'est quand même fondamentalement de l'armement qui date des années 60. Tout ça pour dire que la technologie, oui, c'est essentiel, mais c'est pas tout, quoi. Bon, là.
Laurent Labaye,
oui.
Extrêmement
oui,
rapidement.
Moi, je voudrais quand même revenir au mode d'action de toutes ces armes. Et pour terminer sur l'exemple Irak-Syrie, si aujourd'hui le public s'interroge à juste titre sur les dépenses de l'arme aérienne aujourd'hui là-bas avec des résultats peu probants, c'est parce que les modes d'action ne sont pas ceux qu'il faudrait employer. On s'échine à faire de l'appui-feu des troupes au sol parce que chaque fois qu'une unité irakienne sort sur le terrain, ils veulent de l'appui-feu, alors qu'en fait, tout le monde sait très bien que l'efficacité de l'armée aérienne, c'est d'abord de faire des missions d'interdiction, de couper les flux logistiques, de taper les dépôts de munitions, les dépôts de carburant. Or, on n'y arrive pas parce que on est asphyxié par ces missions d'appui-feu au sol au profit de ces troupes irakiennes dont je parlais du faible niveau.
C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Serge Sûr, professeur émérite à l'Université Panthéon-Assas, directeur du Centre Thucydide d'analyse et recherche en relations internationales, rédacteur en chef de la revue Questions internationales, dont le dernier numéro est donc consacré à la puissance militaire. Le général Laurent Labaye, consultant pour des sociétés aéronautiques européennes et ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, et le colonel Michel Goya, consultant en stratégie et professeur associé à Sciences Po et à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook Géopolitique Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte, avec la contribution de la documentation. À très bientôt.